Many. To listen to the complete episode, you can subscribe to the Final Straw podcast wherever you get your podcasts and check them out.
Time.
C is for
cauliflower.
Confusion. Creation.
Pickle. K is for
kitten.
Cam.
C, wait. Sandroof. C. U. Unbearable.
U is for underground.
Vous écoutez Les Bossons avec Nathalie Di Palma. Sur les ondes de CKUT, le 90.3 FM.
Bonsoir, merci d'être à l'écoute. Ce soir, nous recevons Julie Antoine, directrice générale, et Julie Vaillancourt, responsable des communications au RLQ, Réseau des lesbiennes du Québec, femme de la diversité sexuelle LGBT, organisme qui fête ses 25 ans d'existence cette année. Bonsoir, Julie Antoine.
Bonsoir, Nathalie Dupalma.
Bonsoir, Julie Vaillancourt.
Allô, Nathalie.
La journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie arrive à grands pas, soit le 17 mai prochain, et le RLQ en profitera pour faire le lancement en ligne de l'enquête « Portrait des femmes de la diversité sexuelle ». Quels étaient les objectifs de ce sondage?
Ben, en fait, c'est parti d'une idée farfelue qu'on pouvait peut-être avoir une subvention qui sortirait le Réseau des lesbiennes du Québec de sa noirceur financière. Donc, c'est parti de là. Il fallait qu'on trouve des enjeux puis des façons d'en aller toucher un peu plus nos membres. Puis évidemment, pour changer des politiques, ça prend des chiffres. On s'entend que les politiciens fonctionnent en chiffres. Ils ne veulent pas savoir le senti ou le ressenti. Et puis là, je dis ça, mais c'est contradictoire un peu avec les idéaux qu'on perçoit ces temps-ci. Là. Mais en tout cas, le langage politique dominant, là, c'est vraiment un langage de chiffres. Donc, il fallait aller chercher des chiffres pour dénoncer justement certaines inégalités qui touchent en fait nos communautés de femmes de la diversité sexuelle. Puis, on a créé justement cette demande de subvention-là avec la simple limite de notre imaginaire parce qu'on s'est vraiment lâché lousse sur ça. Donc, on s'est lancé en fait dans ce projet-là en voulant redonner un peu de pouvoir aux femmes par les chiffres. Et c'est pour ça qu'on a créé une enquête spécialement pour les femmes de la diversité sexuelle. Puis au début, on voulait 500 personnes maximum, puis on était là « Oh my God, on n'y arrivera jamais, 500 personnes, c'est beaucoup trop ». Mais finalement, on a eu 726 répondantes, puis l'analyse qui est en train d'être faite là, au Réseau des lesbiennes du Québec, l'analyse touche 685 femmes de la diversité sexuelle.
Des 17 régions administratives du Québec, donc c'est de partout à travers le Québec. Donc, c'est pas juste à Montréal, à Québec, puis en Estrie, qu'il y a des lesbiennes, des femmes de diversité sexuelle. Il y en a partout dans les 17 régions.
Partout.
Puis, tu sais, comme Julie disait, les statistiques, c'est extrêmement important, puis il n'y en a pas.
Non.
Il n'y en a pas. Donc, cette enquête-là, c'est une enquête qui est pionnière, dans le sens que ça n'a jamais été faite à aussi grande échelle.
Mm-hmm.
La preuve, c'est comme tu dis, oh, mon Dieu, il y a vraiment 700 lesbiennes, femmes de la diversité sexuelle au Québec, right? Où sont-elles?
Ouais. Tu sais, c'est un pourcentage que nous, on touche. C'est donc qui ont un lien nécessairement avec soit une communauté LGBT ou encore le réseau lui-même. Donc, on s'entend que ce n'est qu'un échantillon de la population réelle des femmes de la diversité sexuelle du Québec. Donc, c'est quand même super encourageant, mais en même temps, super confrontant parce qu'on se dit, mais où sommes-nous, tu sais? On se voit pas, tu sais? La question de la visibilité est encore excessivement présente puis très prenante pour nous au réseau, tu sais? On se dit, on arrive à toucher ces 700 femmes-là. Mais après, on les voit très peu dans les moments festifs où on est très divisé comme communauté. Puis on le voit d'ailleurs dans les réponses, hein, il y a comme une panoplie d'identités, mais il y a aussi une panoplie de réalités liées à ces identités. Nous, on s'est concentré vraiment sur deux facteurs dominants, c'est-à-dire l'orientation sexuelle et l'identité de genre, qui est en lien directement avec la mission du Réseau des lesbiennes du Québec, hein, qui est subventionnée pour défendre les droits des femmes de la diversité sexuelle. Plus spécifiquement les communautés lesbiennes. Mais maintenant, avec le langage qui évolue et tout, donc on se souvient que le réseau a été mis sur plan en 1996, donc les réalités étaient bien distinctes, mais en même temps que le réseau porte une attention particulière à l'histoire, donc on fait le choix aussi de garder ce nom-là pour comme pérenniser ces combats qu'il y a eu avant nous, mais aussi pour sensibiliser aux diverses réalités lesbiennes, puis aussi se réapproprier un certain thème qui a été comme démonisé par une société patriarcale hétéronormative, tu sais. Donc, c'est un peu comme la vie en rose, on essaie de se reprendre un petit peu de pouvoir à travers cette réalité. C'est confrontant aussi pour nous, puis ça doit être confrontant également pour nos membres, tu sais, de vouloir réapproprier ce terme qui, en même temps, revit une espèce de diabolisation dans la communauté LGBT. Donc, c'est très intéressant. Moi, en tout cas, en tant que directrice, je suis passionnée. Et depuis que j'ai ces données-là entre les mains et que je fais l'analyse, d'ailleurs, avec une jeune femme exceptionnelle qui s'appelle Eugénie Fontaine, qui est incroyable, je me découvre une nouvelle passion dans la découverte des chiffres et de la sociologie et vraiment l'analyse de certaines des réalités. Tu sais, Julie va tomber dedans bientôt, donc, tu sais... C'est sûr qu'elle connaît le projet à travers mes mots, à travers les mots de génie. Donc, mais si on avait fait l'entrevue dans une semaine, je pense que Julie, elle m'aurait coupé la parole plein de fois, puis elle aurait dit « Oui, mais...
» Oui, parce que les chiffres parlent, en fait. Oui, les chiffres parlent. Moi, j'haïs les chiffres, mais nécessairement, les chiffres, ils ont quelque chose à dire. Puis dans ce cas-ci, tu sais, c'est quand même des répondantes de 15 à 88 ans qui ont répondu. Donc, on ratisse vraiment large, là, au niveau, tu sais, du public ciblé. Puis au niveau des enjeux aussi, bon, là, Julie les a toutes lues, moi, je les ai pas toutes lues encore, mais il y en a une myriade, mais ils se rejoignent malheureusement sur cet aspect-là de la lesbophobie. Puis c'est pour ça qu'on a lancé le communiqué, on l'a lancé le 26 avril.
Ouais.
26 avril! Donc ça, c'est une date à retenir.
Ok, pas mal inconnu d'ailleurs. Puis,
oui, c'est pour ça, j'ai fait un blanc pour que les gens fassent 26 avril. Ouais. 26 avril, journée de visibilité lesbienne. Internationale, oui, c'est, sauf que le mouvement part plus de la francophonie, part plus de France, donc... Ouais. Bien, nous, on essaie justement de remettre la date au goût du jour parce que c'est important. De la dissocier puis de l'inclure également dans la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Mm. Et la lesbophobie et la biphobie.
Et les LGBT-phobies, ouais,
qui ne sont pas nommées. Mm. Fait que c'est un peu ça l'idée, tu sais, en lançant le communiqué cette journée-là, puis en faisant le webinaire lors du 17 mai, l'idée, c'est ça. C'est aussi qu'on réaffirme cette notion-là de la lesbophobie. Parce que malheureusement, c'est encore là. Je veux dire, la lesbophobie, ben, c'est orientation sexuelle et sexiste. Puis je pense que les manifestations de sexisme socialement sont malheureusement très, très d'actualité avec les féminicides.
Ouais.
Fait que c'est important. C'est important, je veux dire, qu'on sorte de l'ombre de la lesbophobie et qu'on en parle. Parce que malheureusement, la journée ne met pas de l'avant. C'est même si c'est inhérent, même si oui, ça, elle se veut inclusive cette journée-là, ben. C'est pas toutes les femmes qui se sentent incluses lors de cette journée-là, fait que c'est important de le rappeler.
Ben ça revient au fait que ce que l'on nomme pas n'existe pas. Et c'est toute l'histoire des identités lesbiennes. C'est toute l'histoire de notre communauté. Ne pas nommer, justement, ces femmes qui vivent entre elles, tu sais, pour ne pas
justement... Le travail invisible des femmes qu'on nomme pas depuis des décennies, depuis même les chasseurs-cueilleurs, là. Ça remonte au début des temps, c'est ça, cette espèce de travail invisible-là, ben... Le travail, pourtant, est fait, mais comme on le nomme pas, on le rémunère pas, on le reconnaît pas.
Puis ça, puis quand on le nomme, c'est pour nous insulter.
Donc, l'idée, c'était vraiment, là, de, avec ce sondage-là, de recueillir des données sociodémographiques sur la population qui nous concerne pour, ben, finalement... faire parler des chiffres, puis avoir des outils,
des leviers de changement en lien avec, justement, les plans d'action, les politiques gouvernementales, tous les bilans aussi qui sont en lien avec ça. On revendique d'avoir une analyse différenciée selon les sexes, mais ça prend des chiffres pour le nommer, là. Nous, on en a fait, mais je veux dire, si les groupes LGBT se penchaient un peu plus avec cette façon d'analyser les statistiques, à la place de nous considérer comme un groupe homogène, ben on irait beaucoup plus loin dans nos revendications, puis on pourrait justement cibler vraiment des instances à changer, tu sais, des façons de faire à changer, changer des normes et tout. Savoir, c'est pouvoir. Le fait d'oublier certaines réalités, ben ça donne aucun levier, ça nous permet pas d'avancer, puis ça fait juste ostraciser encore plus des populations qui ont déjà de la difficulté à survivre.
Et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce qui est ressorti de ce sondage-là?
Ah, Nathalie! Ben, on peut te dire des choses qui, malheureusement, vont pas te surprendre, en fait. Comme Julie le dit, la principale système d'oppression, ben, c'est toujours lié au genre et à l'orientation sexuelle. Principal facteur d'oppression des communautés, des femmes de la diversité sexuelle. Malheureusement, comme dans toute bonne société inégalitaire, ben, il y a des inégalités aussi dans la nôtre, hein? Dans notre communauté, je veux dire, on a une approche intersectionnelle, donc il y a quand même des choses qu'on remarque, puis des angles morts aussi, peut-être un petit peu du RLQ, hein, tu sais, il faut autant, on critique les systèmes, autant il faut être capable de s'autocritiquer pour pouvoir avancer, puis pouvoir transformer aussi nos regards, tu sais. Donc, je peux pas vraiment nommer des choses parce que tout est tellement interrelié, mais comme je te dis, au niveau des deux variables qu'on a gardées, c'est vraiment le fait d'appartenir, s'identifier comme femme, parce que c'est l'essence même du réseau des lesbiennes du Québec. Qu'elles soient cis, trans, bispirituelles, fluides, agenres, mais si elles ont utilisé à au moins un moment du sondage le terme femme, elles ont été gardées, ou si elles se sont identifiées comme appartenant aux communautés lesbiennes. Donc, c'était vraiment comme les deux facteurs d'analyse qu'on a gardés pour tout baser les répondantes, en fait, l'analyse des réponses, parce que le terme lesbienne réfère toujours au fait qu'une femme aime une femme. Donc, ça ramenait justement à cette notion de lesbophobie, puis de facteurs d'oppression.
C'est quand même une majorité là, qui s'identifie comme lesbienne hein, dans les répondantes du sondage.
Oui, on a quand même une grande majorité de... Oui, autant femmes puis autant lesbiennes.
C'est ça.
Mais il y a des personnes qui s'identifient à un terme, une orientation sexuelle, et ça va jusqu'à 8 termes d'auto-identification. Donc, on voit aussi qu'il y a des questionnements identitaires à travers toutes ces étiquettes-là, puis que la difficulté de s'associer à un terme devient de plus en plus difficile parce que, justement, je pense qu'il y a un cloisonnement des identités à travers les mots qui fait que certaines personnes veulent en sortir, justement. Donc, c'est sûr que, ben là, ça devient une analyse un peu plus sociologique puis personnelle, là, mais c'est ça. Donc, comme thématique là, qu'on a abordée, ben on a abordé l'orientation sexuelle, l'identité de genre, on a parlé des statuts matrimoniales, on a parlé aussi du revenu, le style d'emploi, on a parlé aussi des systèmes d'oppression liés au genre, liés à l'orientation sexuelle, on a parlé des violences, des milieux. D'où viennent ces violences? Et puis, on parle aussi des besoins des membres, des non-membres qui ont participé à l'enquête, afin de savoir plus cerner, en fait, les revendications. Puis ça tombe super bien qu'on finisse l'analyse de cette enquête-là, bien, premièrement, parce que, évidemment, on va revendiquer l'importance de la lesbophobie dans le 17 mai, la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, mais aussi parce que, présentement, le gouvernement fédéral fait des consultations pour créer un plan d'action contre les LGBTQ+ phobies. Donc, le réseau va, évidemment, envoyer un mémoire spécifiquement en lien avec ça et va lui envoyer les données également de l'enquête pour, justement, dire que l'analyse différenciée selon les sexes intersectionnels est la base et doit être présente dans la création des nouvelles politiques. Sinon, ben, elle ne fait que répéter des inégalités. Et que, aussi, au niveau provincial, le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, qui est en train de penser à réécrire sa politique de lutte, pour premièrement inclure le terme transphobie, parce qu'elle n'était pas inclue lorsqu'il a été écrit, je pense, en 92... Non, en 2012... Je pense que c'est pas celui que ça. Je pense en 2012. Je suis pas si bonne dans les dates, là, donc vous pouvez vérifier, mais je pense que ça date environ ces deux-là.
La politique de lutte?
Oui, la politique de lutte, ça a été faite
en... 2008.
2008?
Oui. Ben, 2007-2008.
2007-2008.
C'était déposé, là, par la commission
du ministère
de la Justice.
Ben, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Bon, ben, merci, Julie. Merci. Non, mais c'est bon, mais c'est parce que les politiques sont tellement... Entre les politiques, les plans d'action, les bilans... De telle année à telle année, puis on est, tu sais, les organismes communautaires, on a plusieurs conventions en lien avec plusieurs ministères ou secrétariats, tu sais. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ben, les dates, on les connaît. Ben,
il y en puis a après, qu'on connaît. Après, il y a plein de plans d'action qui sont à chaque 2-3 ans.
C'est
qu'on devient complètement mêlé dans les dates.
Ils sont 5 ans normalement, okay, les plans d'action, 4 ans à 5 ans. En tout cas, ça dépend du ministère puis de l'instance. Bref, 2008. Merci, Julie. Donc, on va pouvoir utiliser ces statistiques-là pour pouvoir justement dénoncer les inégalités auxquelles notre population spécifiquement est confrontée, réitérer l'importance d'avoir des groupes justement qui ont une expertise en lien avec une population et reconnaître cette expertise-là, puis essayer de faire changer un petit peu la société afin qu'on aille un monde meilleur et plus égalitaire pour nos sociétés.
Comment se déroulera le webinaire qui aura lieu le 17 mai prochain pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, incluant la lesbophobie?
Ben, ça va être sur Zoom, fait qu'on invite les gens à se loguer. Ça va être de midi à 13h15. Ben, ça va être Julie qui va être là, Eugénie et moi également qui va vous présenter, parce que vous allez présenter les résultats. Et c'est gratuit, fait que les gens peuvent venir sur Facebook, sur la page du Réseau des lesbiennes du Québec. Là, l'événement, il est déjà en ligne, si je ne m'abuse.
Ouais.
Oui,
l'événement est
oui,
déjà en ligne.
Oui,
il est déjà partagé. On s'entend que lors de ce webinaire-là, ça va être vraiment comme... Tu sais, c'est une heure, là. Donc, c'est vraiment les données majeures qu'on va partager. Mais le rapport va sortir
rapport
pas très
écrit,
loin.
Là,
c'est ça, le rapport écrit. On s'entend que c'est plus long, là, écrire un rapport, là. Donc, puis on veut qu'il soit quand même assez étoffé. Puis on veut rentrer dans l'intersectionnalité. Donc, on pense toujours qu'on va être capable. Mais finalement, une question en amène une autre. Fait qu'à un moment donné, il va juste falloir qu'on lâche prise dans ce rapport-là. Puis qu'on se dit, bon, ben c'est ce qu'on présente pour le premier. Puis s'il y a d'autres choses, on abordera dans un autre rapport, tout simplement. Mais pour nous, c'est essentiel de toucher l'intersectionnalité, mais c'est des analyses qui sont plus difficiles à faire, puis plus poussées. Donc, c'est sûr, ça prend plus de temps, mais le rapport écrit va sortir peut-être 5 à 10 jours plus tard, là, maximum. Là.
Super. Et on va aller en musique avec « Come to my window » de Melissa Etheridge et on revient avec Julie Vaillancourt et Julie Antoine.
Come to my window, crawl inside, wait by the light of the moon. Come to my window, I'll be home soon. Just to listen to your breath, and I would stand inside my hell and hold the hand of death. You don't know how far I'd go to ease this precious ache, and you don't know how much I'd give or how much I can take just to reach you, just to reach you. Giving away promises I know that I can't keep. Nothing fills the blackness that has seeped into my chest. I need you in my blood, I am forsaking all the rest. Just to reach you, just to reach you.
Nous sommes de retour avec nos invités, Julie-Antoine et Julie Vaillancourt du Réseau de lesbiennes du Québec, femmes de la diversité sexuelle. J'aimerais qu'on parle de la journée de visibilité lesbienne, un peu que vous organisez, qui aura lieu les 5 et 6 juin prochains. Encore cette année, l'événement sera sûrement en ligne. Et pourquoi avoir choisi les dates du 5 et 6 juin si la date officielle est le 26 avril?
Bien, on l'a fait l'année dernière, en fait, la première fois. Puis l'idée, c'était vraiment de débuter le mois des fiertés.
Ah oui,
en juin, c'était ça l'idée, parce que bon, après, en août, bon, on a Fierté Montréal, fait C'était encore une idée, une fois, de se dissocier un peu du mainstream pour vraiment célébrer, nous. Puis c'est bon, c'est l'arrivée de l'été aussi. Fait que, l'idée, c'était qu'on voulait rassembler les femmes. À l'époque, au Never Apart, bon, il y a eu la fameuse COVID, là, qui nous a empêchés de finalement se rencontrer là, en présentiel. Là. Mais l'idée, c'était ça, donc, de débuter le mois des fiertés comme ça.
Ouais. Ça sera en ligne, évidemment, sûrement.
Oui, respecter les mesures sanitaires émises par le gouvernement. En effet, on n'a pas le choix, donc deuxième année consécutive.
Oui, malheureusement, c'est triste parce que c'était un moment où on pouvait justement briser l'isolement puis se rassembler. T'sais, on a tellement peu de moments pour nous où on peut se revoir en toute sécurité. Nos communautés, t'sais, on critique souvent Fierté Montréal ou des plus gros événements de nous rendre un peu invisibles. Et puis là, c'est notre événement à nous, puis malheureusement, on doit le garder à distance. C'est très triste, mais on n'a pas le choix. Fait qu'on propose, je pense, là, quelque chose d'intéressant quand même en format web. Mais ça reste que ça a les limites du web, malheureusement. Mais je trouve qu'une des belles initiatives qu'on a de la JVL, qu'on a partie l'année dernière, c'est Zine Portrait, qui propose le portrait de 30 femmes de la diversité sexuelle. Donc, cette année encore, on reprend l'initiative avec 30 nouveaux portraits. Julie Vaillancourt est la rédactrice en chef de ces portraits. Elle a fait un travail exceptionnel. On a eu des superbes collaboratrices, dont Laura Yaros et Mireille Véronneau. Donc, merci à ces collaboratrices-là. Et merci aussi au Fugue, hein, parce que Fugue propose une très belle vitrine des portraits. Non, je pense que c'est une super belle initiative qu'il faut qu'on garde, parce que l'année prochaine, c'est les 40 ans de la Journée Visibilité Lesbienne, hein, qui a été créée en 1982. Donc, j'espère que ça va être un moment de rassemblement positif pour notre communauté en présence.
Et est-ce qu'il y a des petites choses que vous pouvez nous révéler sur la JVL, sur ce qui va se passer, ou vous gardez ça un peu secret?
C'est parce qu'en fait, on est un peu coincé dans les temps. On aurait aimé ça te dire plus de choses. Mais,
te donner les scoops.
C'est ça, parce que le communiqué de presse n'est pas encore sorti. Okay. Donc, ça va être un petit peu compliqué de partager certaines choses, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on mise sur les régions cette année.
Oui.
Donc, pour nous, justement, je pense que c'est une belle initiative, une belle virée pour le RLQ, là, entre l'enquête qui va présenter aussi un portrait interrégional des femmes de la diversité sexuelle. On fait la comparaison, justement, en lien avec les 17 régions du Québec, donc ce qui est intéressant aussi, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes réalités. Cette année, on mise aussi la JVL sur des personnalités qui, peut-être, sont un petit peu plus souvent oubliées par nos communautés, du fait que, parfois, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, tu sais, donc... On a voulu comme leur redonner un petit peu une présence dans cet ouvrage-là, mais aussi une reconnaissance, une pérennisation de leur action à un certain moment de leur vie. Donc, mais je vais laisser Julie en parler un petit peu parce qu'elle a pris contact avec ces personnes exceptionnelles. Elle leur a parlé, elle a pris le temps de discuter avec elles. Donc,
on peut-tu en dévoiler quelques-unes? Ça va sortir de l'ombre des femmes qui sont peut-être pas connues. Je pense que ça peut être intéressant.
On en a donné deux. Mais c'est sûr que la porte-parole de cette année change. En tout cas, ça, c'est un scoop. On peut pas vous dire c'est qui encore. Puis t'es bonne joueuse, Nathalie, parce que tu sais c'est qui. Parce que Nathalie, hein, elle l'a pas dit d'ailleurs, mais c'est quand même la présidente du Réseau des lesbiennes du Québec. Donc c'est quand même ici, je veux pas dire le lien de hiérarchie, mais c'est quand même un peu notre boss. Donc c'est pour ça que je marche sur des œufs. Donc est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Fait qu'on va en donner un petit peu.
Faut dire que vous faites un travail exceptionnel. Si vous voulez m'en donner pour l'émission, c'est sûr que je vais en prendre.
C'est difficile à dévoiler, tu sais, c'est 30 femmes impliquées dans leur communauté, mais comme Julie l'a dit, l'aspect régional de mettre les 17 régions administratives de l'avant, on l'a fait. Fait que puis c'est vraiment intéressant parce que c'est là qu'on voit qu'il y a des perles dans chaque lieu du Québec, qu'elles soient connues ou non. Là, je pense qu'elles sont appelées à être découvertes.
Je pense que ce qu'on pourrait dire, un petit scoop, on peut t'en donner un peu, c'est Franklin va faire partie de nos portraits. Mais Franklin aussi va participer à la JVL. Donc, on ne vous dit pas ce qu'elle va faire, mais quand même, Julie, tu as eu la chance de parler avec Franklin. Franklin, qui est une militante.
Oui, pour celles qui ne connaissent pas Franklin, ça me surprendrait, là, mais quand même, mettons que vous ne la connaissez pas. Donc, elle roule sa bosse depuis, mon Dieu, depuis qu'elle a, je pense, 9 ans, là, genre dans les bars montréalais. Elle chante, joue de la guitare et tout. Elle a fait les tournées. Elle est impliquée dans au Réseau des lesbiennes du Québec, grande militante. Puis aujourd'hui, elle vit sa vie avec sa femme qui est plus jeune qu'elle aussi. Donc, vous aurez l'occasion de regarder ses dires en lien avec ça dans l'usine. Mais Elle vit en Estrie maintenant, puis elle s'est impliquée aussi en Estrie. Donc, elle a fait du karaoké, elle a chanté là-bas dans les bars aussi. Puis ben là, il y a la COVID, fait que du coup, elle prépare un nouvel album.
Oui, puis elle commence une nouvelle émission de radio sur le web aussi.
Oui, c'est vrai, exactement. Je pense que ça va être super intéressant pour, même si vous êtes débutante à la guitare et vous voulez apprendre quelques lignes, ou tout simplement pour le plaisir d'écouter Franklin, là, parce qu'elle a vraiment de l'entregent puis elle est vraiment drôle. Là. Je pense que ça peut être vraiment un bon moment.
Ouais.
De vivre le cours de guitare avec elle.
C'est un entertainment extraordinaire.
Oui, clairement.
Comme vous l'avez dit un peu tantôt, mais c'est important de parler de lesbophobie aussi en particulier. Comment ça se manifeste, la lesbophobie?
Ben, il y a plusieurs formes de lesbophobie. Hein. Il y a une lesbophobie extériorisée, qui provient du milieu social, des normes présentes et tout, mais il y a aussi une lesbophobie intériorisée qui peut être une réponse justement à ces normes extérieures et à un inconfort personnel. Comme Julie l'a mentionné, la lesbophobie, c'est le mélange de deux phobies qui est en lien justement avec le sexisme et l'homophobie, en fait. Donc, c'est des comportements, ça peut passer de violence verbale à violence physique, à des viols correctifs, ou simplement à des micro-agressions. Ça provient de l'extérieur. Mais sinon, la lesbophobie intériorisée peut provenir justement d'un sentiment d'inconfort, de mal-être en lien avec le fait qu'on préfère être en compagnie des femmes.
Puis de tout ce qu'on nous présente socialement. Mm-hmm. Je veux dire, on ne va pas blâmer les jeunes filles d'avoir peur de se dire lesbienne, alors que jusqu'à il y a un an, quand tu googlais le mot « lesbienne », la première page ou genre les 15 premières pages, c'était uniquement de la pornographie. Je veux dire, puis après, tu sais, toi, t'es une jeune fille, t'as 15 ans, puis tu t'en vas taper lesbienne parce que tu sens que t'as comme une attirance envers les femmes, puis tu vois ça. Est-ce que t'as vraiment envie de te dire lesbienne? Tu sais, genre, fait, la lesbophobie intériorisée, c'est... Ça découle de
l'image sociale qu'on a créée des lesbiennes.
Fait que dans le fond, la lesbophobie intériorisée, c'est créé par les sociétés dans lesquelles on vit, malheureusement.
Absolument.
Voilà. Il y a aussi le fait que les lesbiennes ne sont pas à la mode. Là. Je pense que le terme ne l'a jamais été là, aussi. Là. Je pense qu'il y a tout ça. C'est vraiment pas une appellation qui est à la mode.
Non, mais de toute façon, on ne nous a jamais glorifié. Fait qu'on soit lesbienne, ça ne fonctionne pas dans cette société hétéronormative. Puis patriarcale non plus. Je veux dire, les lesbiennes n'ont pas le même statut que les hommes non plus. Il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, tout le monde est fier de dire qu'ils ont un meilleur ami gay, mais personne n'est fier de dire qu'ils ont une meilleure amie lesbienne. Là. C'est genre, t'as une meilleure amie lesbienne. Tu sais, c'est comme, c'est pas cool, là, de dire lesbienne, là. Ouais, c'est dommage, tu sais. Puis, parce que, malheureusement, il y a des personnes qui veulent avoir ce terme-là. Il y a des personnes qui veulent adopter ce type de vie-là. Puis, juste le fait d'y penser, ça les rebute. Donc, c'est excessivement triste, là. Même moi, là, quand j'étais jeune, là, je me disais pas lesbienne, je suis bisexuelle. Mais, puis ça porte préjudice aussi, malheureusement, aux bi, tu sais, parce que plein de lesbiennes se sont dit bi avant, puis après, quand tu rencontres une bi, tu te dis, là, t'as pas fait ton choix, mais c'est pas vrai, là. Tu sais, je veux dire, après, on est comme toutes dans des schémas qui nous ont été partagés, qui nous ont été comme introjectés, mais en même temps, on s'identifie pas, donc on est constamment en dissonance cognitive, tu sais, puis on arrive comme pas à trouver sa place, donc c'est excessivement difficile, puis jusqu'à un rejet, tu sais, de certaines parties de soi-même. Puis finalement, à un moment donné, tiens, on dit que l'orientation sexuelle, c'est pas un choix. Je suis tout à fait d'accord, c'est pas un choix. Mais de comment tu la vis, cette orientation-là, c'est des choix, c'est des prises de position, c'est des luttes politiques que t'as à faire. Moi, depuis que je suis au réseau des lesbiennes du Québec, j'ai jamais autant dit le mot lesbienne, premièrement, parce que quand je me présente, je le dis, pas le choix, tu sais. Mais je revendique de plus en plus le terme auprès de mes amis et tout. Puis je trouve ça difficile, je trouve ça confrontant. Puis en plus, tu sais, je suis mère de deux petites filles avec ma conjointe. Ça aussi, c'est confrontant. Toujours dire, on est deux mamans, on est un couple lesbo-parental. Tu sais, ramener, lesbo-parental, c'est deux mamans, vous êtes un couple homoparental. Non, on est un couple lesbo-parental. Ça n'a pas les mêmes enjeux. C'est pas les mêmes réalités. Puis c'est pas les mêmes processus non plus. Il y a toute une différence, là.
C'est drôle, je vais faire du pouce sur ce que tu disais. Tu sais, une fois, j'avais une étudiante qui a interviewé pour son projet son meilleur ami gay. Puis elle y parle, puis elle y pose la question, elle dit. Penses-tu qu'un jour, on n'aura plus à faire de coming out? C'est une belle phrase, tu sais, c'est beau, sauf que je disais, parce qu'elle dit, les hétéros, eux, ils font pas leur coming out. Sauf que on a tendance à l'oublier, mais on est dans une société où on a 10 à 12 % des gens qui s'identifient comme LGBTQ+, tu sais, fait que le coming out, qu'on veuille le faire ou non, il est quand même inhérent dans la société dans laquelle on vit, tu sais, je veux dire, c'est normal que l'hétéro ait pas à faire son coming out parce qu'on prend ça pour acquis. Mm-hmm. Fait que j'essayais d'expliquer ça, puis c'est drôle parce que nous, on est dans le milieu militant, on bon, le coming out, pour nous, ça devient quasiment un geste politique et tout. Alors que moi, j'essayais juste d'expliquer que, ben non, les hétéros, ils n'ont pas à faire de coming out parce que, ben, ils sont nés dans cette société-là, alors que toi, tes parents sont hétéros. Fait qu'à un moment donné, tu veux être vrai, tu veux dire ta vraie nature, tu as besoin de t'exprimer, puis là, oh, faut que tu fasses ton coming out à tes parents. T'sais. Puis là, ça devient, oh mon Dieu, la grosse affaire. T'sais.
Mais pas juste ça. Tu veux juste comme partager les moments plats de ta vie.
Oui,
t'sais.
C'est ça. Ou les bons moments. Ouais. Tu peux, t'es en amour avec quelqu'un, fait que pour toi, c'est pas dramatique. Puis là, ouh, tu le dis, puis là, c'est le gros drame. Là, ouais.
Mais... c'est comment c'est reçu. Mais...
on va aller en musique. On va justement écouter Franklin avec son hit, Je t'attendrai, et puis on revient avec les deux jus.
Oh,
sommes de retour avec Julie-Antoine et Julie Vaillancourt du Réseau des lesbiennes du Québec. En ce moment, vous êtes en préparation pour organiser le 25e anniversaire du RLQ. Qu'est-ce que vous nous préparez pour fêter la longévité de cet organisme?
Ben, Nathalie, tes questions sont bonnes, mais avec le COVID, c'est compliqué d'organiser le 25e du RLQ. On est beaucoup dans la spéculation, on a de la misère avec les mesures sanitaires, on fait que des avancées, des reculs, des avancées, des reculs.
Parce que là, c'est en septembre.
Ouais.
Que c'est ça. Là, à l'heure où on se parle, oui, ce serait le fun que ce soit en présentiel, mais
ouais.
C'est ça, c'est en septembre.
C'est en septembre.
Ouais, on le sait pas, hein?
Le 25 septembre, c'est la date qu'on veut parce que ça a été le 25 septembre, c'est l'année de la fondation, du premier congrès de fondation du Réseau des lesbiennes du Québec en 1996. Mm. Ah, finalement, je ne suis pas si pire d'un date.
Mais c'est ça, parce que ça va très bien. Là.
Donc, ça va être un peu compliqué. T'sais, on aimerait ça. Ben, premièrement, on va recontacter les membres qui ont été depuis 1996 au Réseau des lesbiennes du Québec. On va essayer de ramener justement ces membres-là pour partager, faire un partage intergénérationnel, prendre des nouvelles de certaines qui sont parties, faire une mise au point sur les enjeux de notre communauté. Depuis qu'on est au réseau avec Julie, on aime beaucoup justement cette entremise du dialogue intergénérationnel. Je pense que c'est important. Pour structurer les luttes de demain, je pense qu'il faut absolument comprendre les luttes du passé puis savoir par où les militantes sont passées. C'est important. Puis aussi de leur rendre hommage. Donc, c'est sûr qu'on va rendre hommage aux pionnières, les premières, dont toi, hein, qui a été là, Nathalie, à la fondation du RLQ, qui était une des membres fondatrices du RLQ. Oui. Donc, c'est important de le nommer. On va remettre un peu de l'avant, justement, ces personnes qui ont eu une initiative incroyable, justement, de mettre ça sur pied.
Julie, je pense qu'on devrait poser une question à Nathalie. Je sais que c'est toi qui poses les questions d'habitude, mais comme tu étais là, tu sais, comme membre fondatrice en 96, as-tu des souvenirs que tu veux nous partager, des anecdotes? C'était comment, en 96, être impliquée au RLQ? Parce que bon...
Moi, j'avais 8 ans.
Oh my God!
Parce que Julie, elle avait 8 ans.
Ben moi, j'en avais 23, je pense. Okay. Donc, j'étais une des plus jeunes qui était impliquée au RLQ. Okay. Il y avait... Oui, puis il y avait vraiment des lesbiennes de tous les horizons. Moi, j'étais vraiment très jeune. J'étais impliquée déjà à l'Association gay et lesbienne au Cégep du Vieux-Montréal. Mais c'est sûr qu'au départ, à la fondation, c'était tous les statuts et règlements de l'organisme. C'était des réunions de 2 à 3 fois par semaine pour mettre en place tous les statuts et règlements. Puis c'était vraiment un travail laborieux.
Ça a dû être long,
oui. Ah oui, puis il fallait aller avec, justement... tous les horizons qui étaient là. Il y en avait des plus radicales, il y en avait des moins radicales. Donc, c'était un gros brainstorming de qu'est-ce qu'on voulait que ce soit le Réseau des lesbiennes du Québec. Évidemment, moi, je me sentais un peu plus observatrice qu'en avant parce que j'étais très jeune, puis j'ai appris beaucoup aussi avec la création et la fondation de cet organisme-là. Mais je me souviens du premier congrès en 96, justement, qui était... c'était merveilleux d'être là. Il y avait plus que 400 femmes, des spectacles vraiment... pour moi, c'était merveilleux, là. C'est sûr que j'étais jeune, là.
Ben, c'est sûr que nous, on aimerait ça. Tu parles de 400 femmes... réunis dans un même lieu.
Ouais.
C'est sûr que ça serait notre idéal. Tu sais, c'est ce qu'on vise, évidemment. Là.
C'est exceptionnel, quand même.
Ça doit. Ouais. Moi, j'ai une grande nostalgie. Si j'avais pas été si jeune, je pense que j'aurais fait toutes les croisières, lesbo-croisières. J'aurais participé à toutes les parties lesbiennes. Il me semble que c'est quelque chose qui nous manque. En tout cas, pour ma part, c'est quelque chose qui me manque énormément. Je trouve qu'il y avait une solidarité.
Tu trouves qu'il y a plus de sens de communauté dans ce sens-là, en termes de lieux, genre?
Bien, en termes de lieux, ben on le voit, hein, les lieux disparaissent. Ben en fait, il n'y en a même plus à Montréal, on s'en...
Ouais.
Donc, c'est sûr qu'au niveau de la communauté, ben c'est très difficile, tu sais, maintenant, je veux dire, une communauté... on la retrouve sur Internet, mais encore là, comme on en a parlé en début d'entrevue, les réseaux sociaux ont des limites très tangibles et qui sont rapides. Ouais. Donc, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je trouve qu'il y a une certaine perte, oui, de rassemblement, d'authenticité dans ces prises-là. Puis aussi de dialogue. En fait, je pense que ça aussi, c'est central pour moi. J'ai toujours aimé débattre, j'ai toujours aimé parler. Puis je trouve qu'il y a une perte de ce dialogue. Ce dialogue qui, oui, certes, peut heurter, mais qui peut faire questionner des aspects plus personnels ou pas, et qui peut nous amener à créer un monde ensemble, tu sais, plutôt qu'essayer d'imposer son monde à d'autres. Je trouve que ces temps-ci, on est plus dans une dynamique telle que celle que je viens de nommer, Et ça, ça m'attriste énormément, ce qui crée des climats comme insécures, je trouve, dans les moments où, justement, il y a des débats qui pourraient avoir lieu. Je parlais avec Joanne Coulombe, qui est secrétaire au Réseau des lesbiennes du Québec, puis ils ont créé, dans une journée interaction lesbienne, je pense, c'était « Si t'aimes la chicane, viens », c'était une thématique des rencontres. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait capable de faire ça? Est-ce qu'on pourrait se permettre de faire une thématique telle que celle-ci? Je ne pense pas, sincèrement, mais je pense que ça nous ferait peut-être le plus grand bien à certaines, ouais. Malheureusement. Donc, ouais. Je ne sais pas, il y a comme quelque chose. Je pense qu'il y a une grande tristesse de nos populations à faire qu'on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas respecté. Ouais. Puis en même temps, ben, de ce fait, ben, ça agente qu'on a besoin de comme dire nos propres réalités, notre propre valeur, mais en même temps, on pense à côté de peut-être d'intérêts communs ou de systèmes d'oppression communs qui pourraient nous aider à changer le système autour de nous. Je pense qu'en parlant de nos propres identités, on peut changer l'individu, mais je pense pas qu'on peut changer la société. Tandis que quand on est en lutte commune, quand on prend des débats communs, quand on engendre des revendications communes, c'est là qu'on peut changer un système. Donc, à qui qu'on s'adresse présentement? T'sais, est-ce qu'on veut se changer, nous, dans notre salon, ou on a envie vraiment de changer des structures? Puis comment on veut les changer aussi, ces structures? Moi, il y a des pratiques auxquelles j'adhère pas. Il y a des pratiques qui ont été utilisées contre des populations, contre, justement, des mouvements, afin de les oppresser, afin de les taire, afin de les remettre au placard, et nos populations en ont été victimes. Et il y a certaines techniques qui sont utilisées qui, pour moi, dépassent certaines limites. Donc, je n'y adhère pas. Un débat de façon consciencieuse et respectueuse se fait très bien.
Ouais. Un débat, tu l'as dit, dans le dialogue. Dans le dialogue. Ça implique que quelqu'un parle, quelqu'un écoute, puis que chacun parle, chacun écoute.
Ouais.
C'est pas juste quelqu'un qui parle de son nombril puis qui n'écoute pas par la suite.
Ouais.
C'est ça.
Ben, tu sais, c'est correct, parler de soi, c'est important de parler de soi, ouais, revendiquer
mais
qui on est.
Mais tendre l'oreille aussi.
Mais c'est ça.
Ouais. Le problème est là, c'est ça, parce que comme tu dis, dialogue, après on ne peut pas avoir de dialogue.
Non.
Justement, tu sais, comme tu as dit à la Fondation du RLQ, vous étiez beaucoup, vous aviez des points de vue
différents,
différents, vous aviez des âges différents, puis vous arriviez justement à élaborer des règlements, des statuts et règlements. Pourquoi? Ben parce qu'il devait avoir un dialogue.
Oui,
c'est-à-dire, il y avait de la parole, il y avait de l'écoute. Puis
c'était des longues...
Ça allait dans un sens comme dans l'autre, tu sais. Mais pour débattre, il ne faut pas avoir peur des mots non plus. Je pense qu'aujourd'hui, on va le dire, on est rendu dans une société où on ne peut plus rien dire, on ne peut plus utiliser aucun mot. Mais comment veux-tu prendre la parole?
Non, mais par contre, se faire traiter de lesbienne dans la rue, ça se fait.
Ah oui, ça, ça se fait. Mais ça, ça s'est toujours fait, en fait.
Mais c'est, c'est ça qui ne marche pas, tu sais. Pour moi, tu ne peux pas demander le respect lorsque tu ne fais pas preuve de respect.
Ouais.
Tu ne peux pas demander aux gens d'écouter ton histoire lorsque tu n'écoutes pas l'histoire de l'autre. À un moment donné, c'est ça aussi le dialogue, puis ça prend une certaine maturité pour être capable de justement développer de l'empathie, de la compréhension de l'autre. Puis à un moment donné, ben, c'est là que ça ne fonctionne plus, selon moi. Puis le réseau, on essaie de tendre à essayer de trouver des choses qui rallient plutôt qu'ils divisent. Mais on a besoin, à un moment donné, d'un dialogue. Mais on ne trouve pas le moment de le faire. Et ça, c'est dommage, parce que ça crée des craintes, fait qu'on passe par d'autres systèmes, tels que des sondages, justement des enquêtes, parce que ben, c'est un point de vue individuel qu'on fait juste comptabiliser en statistiques. Mais pourtant, l'expérience du vécu, c'est important. Et moi, c'est quelque chose qui me manque énormément en tant que personne, premièrement, mais aussi en tant que directrice d'un réseau, de quelque chose qui est censé mettre en contact. Le réseau, c'est ça le but aussi, c'est mettre en contact les gens, c'est mettre en contact des réalités, mettre en contact des points de vue divergents, essayer de trouver justement des terrains où on peut se communiquer. Donc, j'ouvre mon cœur à vous, mais c'est quand même important pour moi. C'est vraiment un manque important. Donc, on aimerait ça, au 25e, pouvoir discuter de notre futur, mais aussi de notre passé. D'avoir un environnement sécuritaire pour des membres avec des points de vue qui sont peut-être divergents, mais qui va peut-être nous amener sur des revendications communes.
Ouais. Pour laisser place au dialogue.
Oui.
Exactement.
Ouais. Vous faites un travail extraordinaire avec votre équipe, et le RLQ n'a jamais été aussi en santé, il faut le dire.
Par les travailleuses ou du rythme?
Hormis la COVID. Ben,
quelles sont vos aspirations pour l'avenir du RLQ?
Mes aspirations, ben premièrement, j'aspire plus au... Ben, tu sais, je suis directrice d'un organisme. J'aspire à pouvoir donner encore des emplois à mes employés pendant plusieurs années. Les travailleurs sont exceptionnels, puis je pense que c'est ça qui fait la force du réseau. Donc, moi, ma job en tant que directrice principale, c'est de trouver de l'argent pour pouvoir pérenniser les emplois de mes travailleuses. Parce que sans les travailleuses...
Il faut que je coupe Julie, elle le fait très bien d'ailleurs.
Absolument, c'est pour ça que je dis que RLQ est en santé.
Mais il est en santé, oui, c'est sûr, on a une période d'abondance. Il faut se rendre compte que c'est de l'abondance. Le problème, c'est que les périodes d'abondance sont souvent éphémères. Fait qu'il faut aussi se rendre compte que pour le futur, c'est important de faire attention au futur parce que les partis politiques changent vite, les idéaux changent vite. La population peut se revirer. Tu sais, autant Simone de Beauvoir disait qu'il faut jamais que les femmes baissent la garde parce que nos droits ne sont jamais acquis. Je pense que les droits des lesbiennes, des personnes de notre communauté ne seront jamais acquis. Il y a des mouvements d'extrême droite qui se créent partout dans le monde, autant dans l'abolition des droits pour les femmes, autant dans l'abolition des droits pour les communautés LGBT. Moi, je suis très inquiète pour le futur de demain au niveau politique. Donc, j'essaie de me concentrer sur des petites réussites, de me concentrer sur mon équipe qui est phénoménale. J'ai un conseil d'administration qui est phénoménal. Pour l'instant, je touche du bois. Ça va bien, donc on surfe la vague. Donc, j'espère pouvoir, justement, comme j'ai dit, trouver des zones communes pour avoir des revendications plus fondées, plus béton, en lien avec les revendications qu'on fait au niveau politique, puis trouver une santé financière afin de pouvoir pérenniser l'emploi de mes travailleuses.
Bon, c'est dur de rajouter quelque chose après Julie, mais je dirais qu'elle a tout dit sur l'avenir du réseau. Mais je pense que moi, j'aimerais ça, de mon vivant, voir qu'on honore la femme.
Puis elle a 40 ans, hein?
Oui, c'est ça.
Il en reste.
Je suis peut-être trop positive, mais écoutez, qu'on honore la femme, qu'on honore les femmes de la diversité sexuelle, qu'on honore leurs paroles, qu'on honore leurs points de vue. Tu sais, je trouve que socialement, on honore toujours les mêmes points de vue, mais il serait temps, tu sais, justement, qu'on honore les femmes, qu'on honore ce qu'elles apportent socialement. Puis j'aimerais savoir ça de mon vivant.
Ben, moi, je trouve que tu es utopique. Moi, je dirais que de mon vivant, j'aimerais juste voir qu'on me respecte. Honorer, je trouve que...
je voulais dire l'égalité, là, homme-femme, tu sais.
OK, qu'on entend.
Tu sais, qu'on honore nos points de vue en tant que femme de la diversité sexuelle, c'est comme étant des points de vue qui se valent,
t'sais. Ah ouais.
Mais bon, t'as
pour
raison.
Pour moi, c'est du respect, tu sais. Je pense que j'aimerais juste voir de mon vivant du respect. Ouais. Tout simplement envers les femmes. Qu'elles soient de la diversité sexuelle, qu'elles soient hétéro, qu'elles soient de partout dans le monde.
Ouais.
Parce qu'on va quand même se le dire, là, on est excessivement chanceuse au Québec, là. Tu sais, comparativement aux femmes en Inde présentement ou un peu partout en Amérique latine, c'est très difficile. Les féminicides au Mexique, c'est l'enfer. On est chanceuse. Mais il y a un manque de respect qui est culturel et qui est cautionné. Et ça... c'est des barrières incroyables pour toutes les femmes et dans toutes les sphères de leur épanouissement, dans leur santé, bien-être, mais aussi dans l'accessibilité à des postes, à revendiquer justement des choses dans leur couple, dans leur ménage, auprès de leurs enfants. J'aimerais ça que, premièrement, les femmes, on s'attribue plus de pouvoir, qu'on se redonne un petit peu de respect, puis qu'on se dise qu'on a le droit d'être là pour qui qu'on est, puis qu'on vaut la peine de se valoriser personnellement, puis de faire des choix qui sont en cohérence avec ce qu'on veut. Mais aussi que le respect vienne de l'autre, qu'on arrête de prendre les femmes pour des subordonnées ou qui sont pas intéressantes. Ou...
Puis qu'on soit solidaire entre femmes aussi. Ouais. Solidaire des autres, solidaire des actions. Quand une femme fait une action positive, mais pourquoi on lui donne pas une tape dans le dos et on l'encourage pas? T'sais, au lieu de la rabaisser ou de critiquer son foulard qu'elle a mis, je sais pas, moi, les deux poils qu'elle a. Non, mais c'est vrai, il y a un manque de solidarité. Là,
un manque de solidarité est flagrant.
Ouais.
Mais il y a ça, puis tu sais, on s'entend qu'aujourd'hui... malheureusement, tuer une femme versus genre faire de l'importation de cocaïne de Colombie est passible de moins de temps de prison. Je veux dire, il y a un problème, là. Tu sais, quand tu tues ta femme à main nue suite à multiples sévices corporels avant, là, tu sais, c'est pas un épisode psychotique qui arrive puis qui se dit bon, ben je tue tout le monde.
T'as le droit de pas témoigner.
De pas témoigner. Il y a des questionnements là en lien avec la société puis où est-ce qu'on va. Je veux dire, c'est triste là à un moment donné. Moi, j'aimerais juste plus être dans cette tristesse.
On va se le souhaiter.
Ouais.
Donc, on invite les auditrices à participer au webinaire le 17 mai prochain de midi à 13h15. Vous pouvez trouver le lien sur la page Facebook du RLQ QLN. Vous pouvez aussi visiter le site web du RLQ.
www.rlq-qln.ca.
Et vous pouvez aussi devenir membre gratuitement du Réseau des lesbiennes du Québec. Merci beaucoup, Julie-Antoine et Julie Vaillancourt du Réseau des lesbiennes du Québec d'avoir été avec nous ce soir.
Merci. Nathalie, toujours un plaisir.
Pour moi aussi. Alors, on va se laisser avec la chanson « Une femme avec une femme » de Mécano.
Deux femmes qui se tiennent la main, ça n'a rien qui peut gêner la morale. Là où le douteux instincts. C'est que ce geste se fasse sous la table quand elles sont seules, comme elles n'ont rien à perdre. Après les mains, la peau de tout le reste. Un amour qui est secret. Même une huée ne pourrait le cacher. Alors sous les yeux des autres, dans la rue, elle le déguise en amitié. L'une des deux dit que c'est mal agir. Ce qu'ils en pensent ou disent ne pourrait rien y faire. Qui arrête les colons en plein vol à dehors du sol? Une femme avec une femme. Je ne veux pas les juger.
D'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous le 17 mai prochain pour un spécial sur la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie avec notre invitée spéciale Jeannette Bertrand. Soyez des nôtres. À très bientôt et prenez soin de vous.
Bonjour, tu les dames sexées de Montréal. Ici Pam Le Parole. Vous écoutez les moissons sur les ondes du CKUT 90.3 FM. Thank you.
Petit trou dans la toile étanche, triste strass sur le voile, et moi envoûtée de ténèbres, je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah, minuit est là, ah, je ne dors pas, et moi je dors et plus. plus je pense et moins j'oublie. L'immense impasse, l'espace immense qui s'étend au fond de mon lit. C'est inouï tout ce silence, qu'il est cosmique cet ennui. Dois-je recourir à la science, anesthésie et l'insomnie. Les autres ont des insomnies, ceux qui rêvent ont bien de la chance. Et les autres ont des insomnies, ceux qui rêvent ont bien de la chance. Quant à moi, j'ai des insomnies.
Against COVID-19 is now underway for priority groups. Visit quebec.ca/COVID-vaccine to follow the vaccination sequence planned for your area and book your appointment online. If necessary, you can also call 1-877-644-4545. Once you've been vaccinated, it's important to continue to protect yourself by following the basic health guidelines. The vaccine, a safe way to protect ourselves. A message from the gouvernement du Québec.
The 37th Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville, a must for safe live arts, May 17th to 23rd, 2021. Concerts, sound art installations in public spaces, experimental short films, and visual arts. For a safe event of living arts, let's meet in Victo May 17th to 23rd. Details and tickets for the 37th FIMAV at www.fimav.qc.ca. That's www.fimav.qc.ca.